Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous vous saluons chaleureusement pour la troisième partie de la série L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel, une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine. Comme nous l'avions annoncé à la fin de l'émission précédente, nous parlerons aujourd'hui de l'action des quatre forces primordiales dans la création matérielle. Dans les explications qui vont suivre, une personne éclairée et un scientifique tentent de nous communiquer quelques connaissances sur la présence et l'action des quatre forces primordiales dans la matière. Mais, soulignons-le, cela reste une tentative de lever le voile sur l'action de l'esprit dans la matière.
Die nachfolgenden Ausführungen mögen uns zum Nachdenken
anregen. Ce qui va suivre a pour but d'inciter le lecteur à réfléchir à la façon dont Dieu agit dans la matière avec ses quatre forces de création, ce qui pourra peut-être amener le lecteur attentif à comprendre la proximité de Dieu, l'esprit omniprésent dans la matière. Dans le monde matériel, les quatre forces éternelles de création, appelées également forces primordiales, portent d'autres noms et sont désignées par des termes dont le but est de nous faire comprendre, en tant qu'être humain, que l'éternel originel agit dans les différentes substances de la matière et ainsi également dans le corps de chaque être humain. Auparavant, il a été question des forces de la création, des quatre forces primordiales, qui portent en elles les trois forces des attributs du Dieu Père-Mère. Puisque tout est contenu en tout, les forces de la loi de l'esprit sont également contenues dans la matière en tant que forces primordiales énergétiques. Dans la matière, les quatre forces de création ainsi que les trois forces des attributs de Dieu sont vues différemment et prennent d'autres formes que dans l'existence spirituelle pure. D'une part en raison de la pensée de la chute et d'autre part en raison du caractère tridimensionnel de la vie terrestre. Au vu de la dimension cosmique du sujet et malgré l'énergie et les moyens considérables mis en œuvre, on peut dire que tous les efforts de la science se résument à la recherche de semblants d'explications sur l'origine de l'univers matériel. Lorsque la physique moderne expose la théorie du Big Bang, phénomène dont nous parlerons plus en détail dans quelques instants, à l'aide de modèles cosmologiques complexes, nombreux sont ceux qui adoptent ces explications que la science délivre communément. Selon la théorie du Big Bang, il y a environ 14 milliards d'années, un instant initial d'une intensité énergétique inimaginable, appelée Big Bang, aurait déclenché la naissance du cosmos matériel et serait donc à l'origine de tout ce qui agit de manière visible ou invisible dans l'ensemble du cosmos matériel et ses milliards de systèmes solaires. Beaucoup de gens acceptent telle quelle cette théorie exposant ce processus inimaginable parce que c'est la science qui l'énonce. Dans l'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel, il est régulièrement question des quatre forces élémentaires et des trois forces des attributs de Dieu. Si nous observons de plus près ce qui est dit, nous constatons que dans tous les processus ayant lieu dans la matière, mais aussi dans toutes les formes de vie, on peut reconnaître les quatre forces élémentaires de Dieu qui, sous les formes les plus variées, se manifestent en tant que forces fondamentales de développement en toute vie, y compris dans la matière. Bien que les modèles d'explication scientifique apparaissent tout à fait certains à l'époque où ils sont élaborés, il ne reste généralement que des tentatives d'explication correspondant au niveau de connaissance des recherches scientifiques du moment. Ils sont basés sur des observations, des expériences et les théories qui en résultent. Souvent, ce savoir ne garde sa validité que jusqu'à ce que de nouvelles connaissances le rendent caduque. Toutefois, les dernières découvertes effectuées dans les domaines de la physique, des mathématiques, de l'astronomie, de la biologie et d'autres domaines scientifiques montrent des parallèles avec la vision globale qui nous est communiquée par le monde spirituel. Ce qui est dit sur l'action des forces primordiales de l'infini dans le cosmos matériel est particulièrement intéressant. À chaque fois que des scientifiques, des philosophes et des humanistes ont cherché une explication à l'harmonie de l'infini, la tétractis ou tétrade a joué un rôle central. La découverte de ce qui est appelé l'harmonie du monde est prêtée à Pythagore de Samos qui vécut de 570 à 510 avant Jésus-Christ. Les pythagoriciens considéraient qu'il existe une harmonie des sphères au sein de laquelle tout corps céleste, en fonction de sa taille, de sa vitesse et de la distance qui le sépare des autres corps célestes, émet un son particulier qui conduit à une musique des sphères. Ils partaient du fait qu'il existe une concordance entre les harmonies mathématiques, musicales et cosmiques. La base et la clé de leur conception du monde était la tétractis. Les pythagoriciens prononçaient un serment qui disait « Je le jure par celui qui a transmis à notre âme la tétractis, en qui se trouve la source et la racine de l'éternelle nature. » Il y est question de Dieu qui a confié à notre être enraciné dans l'être éternel la tétractis sainte. En musique, ils constatèrent que les harmonies essentielles peuvent être exprimées à l'aide des quatre nombres de la tétrade. Selon les pythagoriciens, la tétrade est aussi la base de la géométrie. Le 1 symbolise le point, le 2 la ligne, le 3 la surface et le 4 le volume. Et Giordano Bruno, qui se référait aux pythagoriciens, écrivit à peu près en ces termes « La tétrade est la première chose que l'on reconnaît dans la nature d'un objet, d'un corps matériel. » La physique moderne reconnaît elle aussi quatre forces fondamentales à la base de tout processus physique. Pourquoi quatre ? On a observé dans le monde physique la manifestation de quatre forces fondamentales actives dans la matière. Ces forces, appelées également interactions élémentaires, nous en apprendrons plus à ce sujet un peu plus tard, font en sorte que des particules s'attirent, se repoussent ou entrent d'une autre manière en interaction. Elles constituent le canevas énergétique de la matière visible. L'un des buts de la physique moderne est d'élaborer un concept global appelé théorie du tout qui unifierait les quatre forces fondamentales ou interactions de telle sorte qu'il soit possible de donner pour origine à ces dernières, ainsi qu'à toutes leurs manifestations, une seule force fondamentale. Les formes de vie de la création spirituelle pure ont d'autres structures que les formes de vie de la matière. Le corps spirituel des êtres du royaume de Dieu est une structure composée de particules insufflées par la lumière primordiale à travers les soleils prismatiques. Les formes de vie de l'existence matérielle, de substances grossières, sont elles aussi animées par le souffle de Dieu, à la différence que sur le plan terrestre, ce sont les cellules qui constituent les unités de base de la vie. Bien que l'action des quatre forces de création de Dieu soit différente dans les structures densifiées du monde matériel et dans l'existence éternelle dans le royaume de Dieu, elles agissent aussi dans les cellules physiques. Les forces agissantes des quatre forces de la création qui se reflètent dans les cellules corporelles se retrouvent dans les unités de base de l'ADN. Ce sont les quatre bases nucléiques qui, dans leurs multiples combinaisons, constituent la base de toute forme de vie organique. Ce sont leurs différentes combinaisons qui amènent la variété phénoménale de toutes les formes de vie de l'existence matérielle. Rappelons-nous que tout est énergie, que tout est vibration. Les quatre forces spirituelles de la création rayonnent dans la matière dite grossière et, dans le cadre des lois qui régissent la matière, donnent naissance aux formes de vie leur correspondant. Il est intéressant de remarquer que chez l'homme, par exemple, la formation des spermatozoïdes est basée sur le même modèle. Une cellule germinale souche, appelée aussi spermatogonie, se divise en quatre pour créer quatre spermatozoïdes matures qui, une fois leur évolution terminée, se répartiront en quatre types de spermatozoïdes. Donc, à partir d'une cellule souche, se développent quatre spermatozoïdes matures. Nous retrouvons ici aussi un petit reflet du processus d'élaboration de la création. Il en va de même pour les phénomènes lumineux de l'existence matérielle, qui portent aussi en eux les aspects de la loi de la lumière primordiale, même s'ils sont adaptés aux lois de la matière dense. Cela se montre tout particulièrement lorsqu'à travers un prisme, un faisceau de lumière blanche se décompose en sept couleurs. Isaac Newton définit les sept couleurs spectrales comme suit : le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Dans sa théorie des couleurs, Johann Wolfgang von Goethe considère que la lumière blanche constitue la lumière originelle dans laquelle sont contenues les sept couleurs spectrales.
Chers amis, d'un point de vue scientifique aussi, il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire sur l'action des quatre forces dans la matière. Tous les phénomènes physiques de la nature sont basés sur quatre forces fondamentales, ou, en d'autres termes, sur quatre interactions élémentaires. Ces forces fondamentales sont la gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Dans sa vie quotidienne, l'être humain peut percevoir deux de ces forces, la gravitation et la force électromagnétique. La gravitation est à l'origine du poids de tous les êtres vivants et de tous les objets, ainsi que de la trajectoire prise par les planètes autour du Soleil. La force électromagnétique, elle, régit les phénomènes les plus courants, comme la lumière, l'électricité, le magnétisme, la chimie, ainsi que de nombreux autres phénomènes. La gravitation et la force électromagnétique ont un rayon d'action très étendu et sont actives dans l'univers tout entier, alors que la force nucléaire faible et la force nucléaire forte ont un rayon d'action extrêmement faible et ne sont actives que dans la sphère du noyau atomique. La force faible est responsable de différents processus de décomposition radioactive et, entre autres, de certains processus atomiques du Soleil, ce qu'on appelle la fusion nucléaire, à l'aide desquels le Soleil produit son énergie. La quatrième force, la force nucléaire forte, assure la cohésion des protons et des neutrons au sein des noyaux atomiques. Autrement dit, c'est elle qui maintient la cohésion de la matière en son plus profond. Dans un court rayon d'action, La force nucléaire forte est environ 100 fois plus puissante que les autres. Les expériences faites grâce à des accélérateurs de particules prouvent que plus l'énergie des particules augmente, et avec elle les températures, plus l'intensité de ces trois forces tend à s'équilibrer. À partir d'une certaine température, se produit une unification de la force électromagnétique et de la force nucléaire faible, appelée alors la force électrofaible. Dans sa théorie du modèle standard, la physique des particules part du fait qu'à partir d'une certaine température et d'une certaine énergie, a même lieu une fusion de la force nucléaire forte avec la force électrofaible. En présence de température et d'énergie bien plus élevées encore, une fusion des quatre forces naturelles pourrait se produire, constituant une super force unique. De telles conditions physiques extrêmes ne peuvent avoir existé que lors du Big Bang. Dans le domaine de la physique, le Big Bang ne désigne pas une explosion qui a eu lieu dans un espace donné, mais représente bien plus l'instant initial de la matière, de l'espace et du temps. La plupart des astronomes pensent que l'univers matériel a commencé avec le Big Bang il y a 13,7 milliards d'années. Le processus du Big Bang en lui-même ne peut pas être décrit par les formules physiques ou mathématiques connues jusqu'alors. Les astronomes supposent qu'au début de l'univers visible n'existait qu'un minuscule domaine d'espace-temps, plus petit qu'une tête d'épingle, composé de mousse quantique. En une fraction infinitésimale de seconde après le Big Bang, ce minuscule domaine s'est probablement dilaté en un espace aux dimensions gigantesques. L'expansion de l'univers fut colossale. On peut essayer de se l'imaginer en la comparant à un atome qui se dilaterait en un instant à la taille de 10 000 années-lumière, tout en sachant qu'une année-lumière représente déjà 9,5 billions de kilomètres. La science a bien sûr essayé de trouver des explications à une telle expansion de l'espace. La plupart des cosmologues pensent aujourd'hui qu'elle a été provoquée par un champ d'énergie très puissant, un champ scalaire, appelé inflation. Ce champ d'énergie avait probablement une force de gravitation répulsive qui augmenta constamment avec l'expansion du volume de l'espace. À la fin de cette expansion, il y avait un mélange de particules extrêmement chaudes aux températures avoisinant les 10 degrés Kelvin puissance 29, c'est-à-dire des températures inimaginables. L'air qui suivit est appelé l'air électrofaible. C'est au cours de cette phase que les particules élémentaires font leur apparition. L'univers se refroidit alors progressivement et 380 000 années plus tard, il devient perméable à la lumière. C'est de cette époque que date le rayonnement appelé fond diffus cosmologique, mesuré aujourd'hui par les satellites. Alors que l'univers était encore minuscule, il est probable qu'il y ait eu des fluctuations quantiques qui, par la suite, en raison de l'expansion de l'univers, se dilatèrent pour atteindre des ordres de grandeur phénoménaux. Dans l'univers, se créèrent des régions composées pour les unes de moins de particules que la moyenne et, pour les autres, de plus de particules que la moyenne. Dans le milliard d'années qui suivirent le Big Bang, la gravitation commença à former les premières structures complexes et massives. Les plus récentes mesures et études laissent penser que l'univers comporterait 100 à 200 milliards de galaxies, toutes plus ou moins semblables à notre Voie lactée, chacune des galaxies pouvant être composée jusqu'à 200 milliards d'étoiles. ce qui donnerait la somme totale de 20 trilliards d'étoiles dans l'univers. Autrement dit, le chiffre 2 suivi de 22 zéros. Chers amis, il s'agit de chiffres que nous ne pouvons tout simplement pas imaginer. La comparaison suivante peut nous aider à mieux comprendre. Si chaque étoile de l'univers était un grain de sable, leur totalité recouvrirait la surface totale du territoire allemand sur une hauteur de 50 cm. Longtemps, on a cru que le modèle du Big Bang était la clé permettant de comprendre l'univers. Mais au cours des dernières années, est ressorti de manière toujours plus fréquente que de nombreux phénomènes de l'univers n'ont été ni explorés conséquemment, ni compris. Ce qu'on appelle la matière noire en est un exemple. Au cours du XXe siècle, en observant des galaxies et des amas de galaxies, des astronomes ont découvert que la dynamique de ces galaxies ne pouvait pas être expliquée par la quantité de matière visible et que l'univers était forcément composé de plus de matière qu'on ne l'avait pensé jusqu'alors. Du fait que cette matière ne réfléchit pas la lumière, elle fut appelée matière noire. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe autour des galaxies une zone de matière noire dont la taille est au moins 10 fois plus importante que l'espace qu'elle entoure et dans lequel les étoiles suivent leur orbite. Il y a quelques années seulement que des scientifiques ont découvert que notre univers se développe tout à fait différemment de ce que nous pensions. Contrairement à toutes les conceptions en vigueur jusqu'alors, l'univers se dilate toujours plus rapidement depuis environ 5 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle l'accélération cosmique. La conception de départ était que l'univers se rétracterait et que la gravitation prendrait le dessus. Dans son volume, l'univers paraît posséder une sorte d'énergie interne, faisant constamment pression vers l'extérieur, s'efforçant ainsi de le faire grandir. La particularité de cette force est qu'elle augmente en même temps que le volume en question. Il n'existe encore aucune explication scientifique à cette énergie, appelée énergie sombre. On pense aujourd'hui que l'univers n'est composé que de 4,6% de matière observable, composée d'atomes, que 23% serait de la matière noire et que presque 73% correspondrait donc à de l'énergie sombre. Si l'énergie sombre reste une fraction dominante de l'univers, ce que présument les cosmologues, toute la matière de l'univers, jusque dans ses atomes même, se désintégrera, y compris les trous noirs, pour ne laisser place qu'à un rayonnement minime. Si, pour une raison ou une autre, la force de gravitation prenait cette place dominante, l'univers se contracterait sur lui-même avant de disparaître totalement. Ce qui est naturellement intéressant, c'est la question: qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? La théorie de la relativité générale introduit la notion d'un point de départ du monde dans le passé cosmique. Ainsi, s'interroger sur le avant n'aurait aucun sens. Le modèle du Big Bang aborde la question de son déroulement. Il n'en recherche pas les raisons et encore moins ce qui existait avant. Certains cosmologues et physiciens, ne se satisfaisant pas du modèle du Big Bang, ont cependant développé de tout autres idées. Un de ces modèles scientifiques, par exemple, avance l'hypothèse d'un mouvement primordial selon lequel, avant notre univers, aurait existé un autre univers empli de champs quantiques est composé d'énergie pure. D'autres modèles mathématico-physiques supposent des univers cycliques. Selon ces modèles, la phase finale d'un univers amène automatiquement un nouveau départ, prenant la forme d'un Big Bang. De nombreux physiciens sont étonnés par le fait que, parmi les quatre forces élémentaires de la physique, la gravitation est de loin la plus faible. Une des hypothèses serait que la gravitation s'infiltrerait, pour ainsi dire, dans un univers parallèle, ce qui expliquerait son affaiblissement dans le nôtre. En résumé, on peut dire que, selon le niveau actuel des connaissances scientifiques, à l'instant du Big Bang, aurait existé une force unifiée à partir de laquelle se serait détachée en premier la gravitation, suivie ultérieurement des autres forces élémentaires. Le tétractys se trouve également dans les quatre nombres quantiques. Tout comme les quatre forces élémentaires jouent un rôle prépondérant dans le domaine de la physique, les quatre nombres quantiques ont une signification centrale dans le domaine de la chimie. Dès les premières recherches faites sur la composition de l'atome, il apparut clairement que son noyau était composé de protons et de neutrons, et qu'autour de ce noyau gravitaient des électrons. Les membranes de l'atome jouent un rôle central dans les réactions et les liaisons chimiques. Il fallut de nombreuses années pour décrire de manière satisfaisante la nature de la membrane nucléaire. Pour décrire correctement un électron, il faut quatre nombres quantiques. Le nombre quantique principal, le nombre quantique secondaire, le nombre quantique magnétique et le nombre quantique de spin. Un principe fondamental de la physique et de la chimie stipule que, dans un atome, il ne peut y avoir deux électrons ayant la même combinaison des quatre nombres quantiques. Cette combinaison est donc unique et caractéristique de chaque électron. Chers amis, il est intéressant de constater que le code génétique est lui aussi déterminé par quatre bases nucléiques. L'acide désoxyribonucléique, ADN, est le support de l'information génétique pour la quasi-totalité des formes de vie. Seuls quelques virus utilisent l'acide ribonucléique, ARN, comme porteur d'information. Il est donc à noter que seulement quatre molécules sont nécessaires à l'enregistrement et à la codification du matériel génétique. Ces molécules, appelées bases nucléiques, sont l'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Un groupe de trois bases nucléiques consécutives constitue le code d'un acide aminé. Les acides aminés sont connus pour être les éléments de tous les types de protéines. Autrement dit, la nature n'a besoin que de quatre types de molécules pour codifier les informations de tout le matériel génétique. Il est remarquable de constater qu'à peu d'exceptions près, le code génétique est le même pour tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants se servent donc du même langage génétique. Notons également la théorie des quatre éléments. Sur la base de la théorie des quatre éléments, la médecine antique développa ce qu'elle appellera la théorie des humeurs, qui, jusqu'à la fin du XIXe siècle, régnera sur le monde des sciences et de la médecine. Selon cette théorie, les quatre humeurs du corps humain, que sont le sang, la bile jaune, la bile noire et le phlegme, appelé aussi lymphe, correspondent à quatre types de tempéraments, le sanguin, le colérique, le mélancolique et le phlegmatique. Cette théorie viendra même jusque dans le XXe siècle inspirer la psychologie de la personnalité. Pour les médecins de l'Antiquité, Hippocrate de Cos et Galien de Pergame, par exemple, la santé est le résultat d'un équilibre harmonieux des humeurs. Selon leur compréhension des choses, les maladies sont causées par un déséquilibre de ces quatre substances. On sait aussi que les biomolécules importantes ont une structure quaternaire. Il existe un groupe de biomolécules à la structure quaternaire marquée. Elles sont appelées porphyrines et sont composées de quatre molécules cylindriques ordonnées symétriquement. Au groupe des porphyrines appartiennent des molécules très importantes telles que l'hémoglobine, responsable de la pigmentation du sang, la myoglobine, responsable de la pigmentation des muscles, certaines protéines porteuses d'électrons vers les centrales électriques des cellules, ainsi que certains enzymes responsables de la détoxification des radicaux libres. Le composé de ce type le plus courant sur la Terre est la chlorophylle des plantes. Grâce à ce pigment vert, la plante peut utiliser la lumière du soleil comme source d'énergie, lui permettant de produire le glucose. La vitamine B12 présente, elle aussi, une structure moléculaire similaire à celle de l'hémoglobine. Il est intéressant d'observer que différents métaux peuvent également se trouver enveloppés dans les quatre molécules cylindriques des porphyrines. Le fer dans l'hémoglobine, le magnésium dans la chlorophylle, et le cobalt dans la molécule de la vitamine B12, par exemple. Les molécules les plus importantes pour la production d'énergie des cellules présentent une structure similaire chez tous les êtres vivants.
Chers amis, tous ces mots pour tenter de décrire les quatre forces primordiales qui se manifestent dans la matière produisent à nouveau une image caricaturale. Cela reste des suppositions et des hypothèses, une tentative visant à décrire quelque chose qui est encore, malgré tout, recouvert du voile des trois dimensions. Quittons les explications scientifiques et revenons aux éclaircissements sur l'existence véritable. L'unité universelle parle, la parole de l'esprit créateur universel, donnée à travers la vision de l'œuvre universelle et spirituelle de l'Éternel, telle que Gabriel l'a décrite lors de plusieurs échanges. Voici ce que nous pouvons lire dans notre livre au sujet de l'harmonie universelle de l'existence éternelle. L'existence éternelle est l'harmonie universelle. Ce sont les sons sphériques de l'existence éternelle. Toutes les planètes et tous les soleils de tous les plans célestes du royaume de Dieu sont animés d'un mouvement constant et harmonieux. Le mouvement et les sons de tous les astres sont entièrement à l'unisson avec les sons de toutes les formes de vie, ainsi qu'avec les êtres spirituels qui vivent dans les plans célestes où se trouvent les différentes planètes d'habitation sur lesquelles ils habitent avec leurs familles spirituelles dans des édifices spirituels. C'est cela la vie véritable, la communication universelle. Les édifices célestes et les familles vivant dans le royaume de Dieu ne peuvent être comparés avec les maisons et les palais de cette terre ou avec les familles de l'ici-bas. Les édifices de l'existence éternelle ne sont pas construits mais créés par les êtres spirituels à partir de la substance originelle éthérique des planètes d'habitation sur lesquelles ils vivent. La substance éthérique de la planète d'habitation est élevée de sorte que l'édifice créé est en harmonie parfaite avec la planète. Les êtres spirituels de tous les plans célestes sont des corps sonores correspondant à leur mentalité. Leurs habits sont également en harmonie avec la couleur du plan céleste dans lequel ils vivent. Il en va de même pour la forme et l'apparence de toutes les formes de vie, des minéraux jusqu'aux êtres de la nature parvenus à maturité, dont le niveau de conscience se reflète dans les nuances de couleur. Chaque couleur a son parfum et, en fonction de son stade de développement, un son correspondant. Toutes les nuances de couleur proviennent de la lumière primordiale. Le soleil central primordial, à travers les soleils prismatiques qui, comme cela a déjà été mentionné, décompose en spectres lumineux la lumière du soleil central primordial de couleur or blanc et la rayonne dans l'infini. Sous toutes leurs facettes, les formes, les couleurs, les parfums et les sons reflètent l'unité, l'unité également avec les sons de tous les astres sur tous les plans célestes. Lorsque, par exemple, des êtres spirituels passent d'un plan céleste à un autre, la couleur primaire de leur habit prend la couleur du plan céleste de destination. Pourquoi ? Parce que toutes les couleurs sont contenues dans les habits des êtres divins et, ainsi, également dans toutes les forces de l'existence pure. Toutes les formes de vie, quel que soit leur niveau d'évolution, portent en elles aussi une forme, une couleur, un parfum et un son prédéterminés. Formes, couleurs, parfums et sons appartiennent à l'unité universelle, tout comme tous les soleils et les planètes de tous les plans célestes appartiennent à l'unité divine. Il en résulte l'harmonie sphérique, les sons sphériques de l'existence éternelle. Chers amis, tout ce qui est redonné ici, sous forme de mots inhérents à la vie terrestre dans un monde tridimensionnel, ne correspond pas même à un souffle de l'existence éternelle. Nous sommes, pour le moment, dans la vie terrestre afin de reprendre conscience de notre origine en suivant le chemin qui mène vers l'intérieur, vers notre existence véritable qui est au plus profond de notre âme et frappe à la porte de notre âme, nous appelle et nous exhorte encore et toujours à suivre le chemin qui rend libre et heureux et qui nous permet de pressentir que nous ne sommes pas de ce monde, mais véritablement des fils et des filles de l'Éternel, du Dieu Père-Mère. Chacun de nous a accepté, plus ou moins selon les cas, de s'incarner afin de retrouver en lui-même l'être divin au plus profond de son âme, de reprendre conscience de l'unité qui existe entre toutes les forces positives et de retrouver cette unité avec tous les êtres vivants, aussi avec ce qu'il y a de plus profond en chaque être humain. Cela signifie examiner chaque jour nos sensations, nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actes, et nous demander si ce que nous ressentons, pensons, disons et faisons est en accord avec les lois éternelles du royaume de Dieu. Le contenu des 10 commandements de Dieu et des enseignements du sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth nous appelle à nous examiner chaque jour et à vivre dans la conscience que tout ce qui est à notre droite, à notre gauche, au-dessus et au-dessous de nous a un contenu vital qui, en tant qu'essence divine de la vie, appartient à l'unité universelle. Devenir sensitif signifie comprendre que tout vit et est relié par la communication qui a lieu entre toutes les formes de vie et aussi avec l'unité universelle. Chers téléspectateurs, c'est avec ces mots que nous concluons cette émission et prenons congé de vous. Dans la quatrième partie de cette série, nous parlerons des sensations, sentiments, pensées, paroles et actes, les cinq composantes de la vie des hommes qui peuvent se transformer en projectiles de combat. Un médecin nous exposera plus particulièrement son point de vue sur le sujet. Cette série reste donc très intéressante. Nous serions heureux de vous retrouver pour la suite de cette lecture. L'unité universelle parle, la parole de l'Esprit créateur universel, une œuvre cosmique d'enseignement et d'apprentissage donnée à l'école de la sagesse divine. Nous vous souhaitons ce qu'il y a de mieux. Au revoir et une salutation en Dieu.